Le journal est présenté par Claire Checaglini.
Bonjour à tous. Le cessez-le-feu humanitaire entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour permettre l'échange des blessés et des corps des victimes. Juste avant la trêve, les bombardements avaient redoublé d'intensité de part et d'autre au Haut-Karabakh. Aux États-Unis, poursuite des hostilités entre Joe Biden et Donald Trump malgré un débat annulé. Le républicain au balcon de la Maison-Blanche ce samedi pour un meeting version mélange des genres entre fonction présidentielle et candidature au scrutin de novembre. Manifestation en musique à Londres, rien de festif, juste des musiciens venus exprimer leur détresse face à la crise du Covid. En France, 1600 accords signés pour la mise en place du dispositif de chômage partiel de longue durée. 6 branches professionnelles sont concernées. Dans le Haut-Karabakh, depuis midi, heure locale, 10h heure de Paris, les armes doivent s'être tues, le temps d'une trêve humanitaire. Mais quelques heures auparavant, les combats ont repris de plus belle à Stepanakert, dans la capitale de la région. Ce cessez-le-feu de ce matin a donc été obtenu dans la douleur la nuit dernière à Moscou, comme nous le raconte Jean-Didier Revoin depuis Moscou.
Cet accord a été obtenu au terme d'âpres négociations qui ont duré plus de 10 heures. Pour le chef de la diplomatie russe, la trêve, qui est entrée en vigueur ce matin, a une vocation humanitaire. Elle doit permettre aux belligérants de procéder à l'échange des prisonniers et de rapatrier les corps des soldats défunts depuis la reprise des combats le 27 septembre dernier. Bakou et Yerevan se sont en outre engagés à poursuivre leurs négociations en vue d'une résolution pacifique du conflit au sein du groupe de Minsk de l'OSCE. Les détails pratiques du cessez-le-feu seront discutés dans les jours qui viennent au sein de cette instance, co-présidée par la Russie, les États-Unis et la France. Après une dizaine de jours de combats meurtriers qui ont fait plusieurs centaines de morts de part et d'autre, cette avancée fait naître un fragile espoir. Jusque-là, l'Arménie comme l'Azerbaïdjan campaient sur leur position, ignorant les appels de la communauté internationale pour que cessent les hostilités. Bakou avait même multiplié les ultimatums réclamant un retrait des troupes arméniennes de l'enclave séparatiste. Les deux voisins se disputent le Haut-Karabakh depuis plus de 30 ans. Une première guerre entre 1988 et 1994 y avait fait plus de 30 000 morts et des centaines de milliers de réfugiés. Depuis, la situation s'était apaisée en dépit de heurts récurrents.
Et à l'instant, Bakou accuse l'Arménie de violation flagrante du cessez-le-feu. Aux États-Unis, Donald Trump prend de la hauteur. Le candidat républicain donnera bien un meeting aujourd'hui. Une reprise officielle de campagne en forme de casse-tête pour celui qui était testé positif au Covid la semaine dernière. Ce sera donc sa première apparition publique depuis son séjour à l'hôpital. Le président américain a choisi de prendre ses distances avec les partisans auxquels il va s'adresser. Pour cela, le candidat Trump prendra la parole depuis un lieu pour le moins emblématique, la correspondance aux États-Unis de Benjamin Fontaine.
Depuis le balcon de la pelouse sud de la Maison-Blanche, pour respecter les règles de distanciation physique, Donald Trump va s'exprimer devant quelques centaines de personnes sur le thème de la sécurité, son thème favori. Chaque invité devra être masqué, ce qui n'est pas toujours le cas dans les meetings du président. Les services de sécurité prendront la température des participants à l'entrée. Ils répondront à un questionnaire de santé, ces participants. Mais il reste une grande incertitude. Donald Trump est-il en état d'assurer ce meeting? Lui assure que oui, il va très bien. Il le répète à qui veut l'entendre. Mais depuis jeudi soir, il n'y a plus aucun bulletin officiel de santé. On ne sait même pas s'il a de nouveau été testé positif ou négatif au Covid. Le président ne s'arrête pas là, puisque lundi, il participera à un autre rassemblement à Sanford, en Floride. Donald Trump trépigne à l'idée de retourner sur le terrain. Il faut dire qu'il y a urgence. Il est désormais dominé d'une dizaine de points par Joe Biden dans les sondages.
La Floride qui constitue un état clé de cette élection du 3 novembre. Et puis, ce qui devait être le deuxième débat entre Joe Biden et Donald Trump a été annulé. Décision de la commission bipartisane la nuit dernière. La tenue de ce rendez-vous était en suspens depuis le refus du candidat républicain de participer à un échange virtuel pour éviter toute contamination. La crise sanitaire et ses conséquences économiques dramatiques au Royaume-Uni. Un tiers des musiciens professionnels envisagent de changer de métier. Résultat d'un sondage publié cette semaine. Le ministre des Finances britannique Rishi Sunak avait lui-même demandé à ses artistes de se reconvertir. D'ailleurs, le gouvernement ne compte pas augmenter le budget d'1,5 milliard de livres pour soutenir le secteur culturel. Alors, pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur leur situation catastrophique, plusieurs centaines de musiciens se sont mis à faire ce qui est encore leur métier devant Westminster. À Londres, Richard Place a assisté à ce mini-concert.
400 musiciens vêtus de noir, masques rouges sur le visage, c'était cette semaine devant le Parlement britannique. Un concert d'1 minute 30 secondes, la police n'avait pas autorisé plus, pour éviter un rassemblement favorisant la propagation du virus. C'est le syndicat des musiciens qui a organisé cette manifestation. Horace Troubridge est le secrétaire général de cette organisation qui représente plus de 32 000 professionnels. Il juge les aides de l'État insuffisantes. Un musicien freelance bénéficie de 400 euros par mois environ. Dans ces conditions, ils sont nombreux à avoir lâché les instruments pour devenir livreur ou caissier.
On entend parler tout le temps des professionnels du tourisme, des restaurants, des compagnies aériennes. Tous ces gens ont reçu des fonds de soutien, des fonds importants. Et l'industrie musicale, on la laisse mourir.
Le syndicat des musiciens propose de rouvrir les salles de concert, même les plus petites, en ne remplissant qu'un tiers de la capacité totale. L'État paierait un tiers manquant, le dernier tiers resterait vide. Pour l'heure, pas de réponse. Cette musique, cette voix, c'est Elisa Shaddad. En janvier, elle chantait à l'Olympia, puis tout s'est arrêté, tous les concerts annulés. La voilà enfermée chez elle à écrire, avec des revenus qui ont nettement diminué.
Toute l'équipe de musiciens avec qui je travaille est en difficulté. J'ai mis 10 ans à créer ce groupe de gens incroyablement talentueux. Et tout ça est anéanti. Je ne sais pas ce qui va se passer.
Elisa Shaddad ne se plaint pas. En début d'année, elle a épousé un producteur. Alors enfermée chez eux, ils créent un album et la période les inspire.
Et de nouvelles mesures de restriction seront annoncées lundi par le Premier ministre britannique Boris Johnson qui doit détailler sa stratégie devant les députés. À Berlin, pas besoin d'attendre lundi. Des mesures drastiques entrent en vigueur dès aujourd'hui. Un couvre-feu qui concerne l'ensemble des commerces excepté les pharmacies et les stations-service sera en place au moins jusqu'au 31 octobre. Ce soir, tous les bars et restaurants fermeront à 23h. Cela concerne près de 10 000 enseignes. En France, les bars sont fermés depuis hier soir minuit à Saint-Étienne, Lyon, Grenoble et Lille, quatre métropoles qui sont désormais classées en zone d'alerte maximale, à l'instar de Paris ou d'Aix-Marseille. Dans toutes ces agglomérations, les restaurants peuvent rester ouverts à condition, notamment, d'avoir mis en place un carnet de rappel. Il permet de recontacter les clients au cas où un cas de Covid serait déclaré parmi les autres clients. Encore faut-il respecter un cadre, comme l'explique Marjorie Pénapas. Cette juriste a rédigé les recommandations de la Commission nationale informatique et liberté en la matière. Elle est interrogée par Marc Potvin.
Ce qu'il ne faut pas faire, c'est déjà le laisser à la vue de tout le monde comme un livre d'or. Ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est demander aux clients de leur communiquer plus d'informations qu'ils n'en ont besoin. Nom, prénom, numéro de téléphone. Troisième point, il ne faut pas qu'ils réutilisent les informations, les coordonnées des clients pour autre chose que pour le traçage et pour la recherche des cas contacts. Donc, on conserve pas les données pour alimenter sa base client ou pour communiquer les coordonnées du client à un autre restaurateur, donc on les conserve uniquement pour cette utilisation-là. Réutiliser des informations pour un objectif qui n'était pas l'objectif initial, c'est sanctionner. Donc le restaurateur encourt une amende administrative qui peut monter jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% de son chiffre d'affaires. Il encourt aussi des sanctions pénales puisque c'est un délit. Et vous, en tant que client qui a vu ces informations réutilisées pour un objectif pour lequel vous n'aviez pas été informé, eh bien, vous pouvez déposer une plainte auprès de la CNIL si vous estimez qu'il n'a pas respecté ses obligations.
Marjorie Pénapas, juriste à la CNIL. Et d'ailleurs, ce matin, Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF, a plaidé pour trouver le moyen de travailler avec l'épidémie, citant notamment les bars et les restaurants. Par ailleurs, pour soutenir les secteurs en difficulté, les accords sur le chômage partiel de longue durée se sont multipliés, ce dont se félicite le patron des patrons.
On est à 1600 accords signés, 6 branches consignées, donc c'est un dispositif qu'on a nous proposé avec la métallurgie, que les syndicats ont adopté, qui est inspiré, il faut le dire, d'un système allemand pendant la crise de 2008 et qui a pour but de préserver l'emploi et les compétences en partant du principe que cette chute d'activité, elle aura une fin, que l'aéronautique va repartir, que les secteurs vont partir.
Et là-dessus, vous êtes optimiste ?
C'est le jour où on a un vaccin, c'est le jour où l'épidémie s'arrête. Je ne suis pas très compétent pour vous répondre à cette question. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si on détruit des emplois, d'abord, ça coûtera plus cher à la collectivité, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la PLD, l'entreprise paye une partie du salaire. L'État aussi, bien sûr. Il y a finalement, chacun fait un effort, y compris d'ailleurs le salarié qui va toucher moins.
Il est urgent d'attendre, a tweeté Martine Aubry. La maire socialiste de Lille fait référence au moratoire sur la 5G adopté par le conseil municipal de la capitale nordiste la nuit dernière. Il souhaite attendre le rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail qui sera publié l'an prochain. Manifestation dans plusieurs grandes villes, dont Paris à 15h cet après-midi, à l'appel du collectif Marchons Enfants. Il comprend notamment la manif pour tous. Les participants diront leur opposition à la nouvelle loi sur la bioéthique génétique qui permet l'accès à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes célibataires ou en couple avec une autre femme. La fortune des milliardaires connaît un nouveau sommet, constate une étude publiée cette semaine. C'est le thème de la bulle économique. Elle est signée Marie Viennot.
La bulle économique, Marie Viennot.
Nous sommes les 99%. C'était le slogan d'Occupy Wall Street en 2012. Un slogan pour dénoncer la croissance des inégalités, les richesses qui s'accumulent pour le 1% du dessus sans manifestement ruisseler sur les 99% du dessous. 8 ans plus tard, où en est-on ? On a dépassé tous les records, selon une étude publiée cette semaine par la banque UBS et le cabinet conseil PricewaterhouseCoopers. Selon cette étude, la richesse accumulée par les milliardaires de par le monde atteint un sommet inégalé en juillet 2020. 10 200 milliards de dollars, c'est 1 300 milliards de plus que le précédent pic de 2017. Les milliardaires ont très bien traversé la crise du Covid, explique l'étude. Ils ont très bien chevauché la tempête quand le marché était baissier, mais en plus, leur fortune a gonflé quand le marché des actions a rebondi. Sans surprise, les milliards placés dans la technologie et la santé sont ceux qui ont fait le plus de petits dernièrement. Ce qui surprend, en revanche, c'est la performance des milliardaires français. Leur fortune a été multipliée par 5 en 10 ans, nous dit UBS. Seule la Chine fait mieux. Alors, réjouissons-nous. Quand le capital des plus riches augmente, ils investissent dans l'économie et créent des emplois. C'est connu. C'est pour cela que la France supprime l'ISF sur le capital financier, expliquait d'ailleurs Bruno Le Maire, ministre des Finances, en 2017.
Le projet que nous défendons, il est juste et il sera efficace parce qu'il permettra à nos entreprises d'avoir plus de capital pour investir, innover et donc créer des emplois demain.
Le problème de ce raisonnement, c'est qu'il n'a jamais été prouvé empiriquement. Les économistes finlandais, suédois, américains, qui ont cherché à mesurer ce ruissellement pour les réformes adoptées dans leur pays sur le capital il y a 15 ans, n'ont rien trouvé. En France, ça fait 2 ans que des chercheurs s'y attellent, car le gouvernement a promis que la réforme de l'impôt sur la fortune serait évaluée et même éventuellement amendée en fonction des résultats. Mais de résultats, il n'y a toujours pas dans le deuxième rapport d'évaluation. Le seul impact jugé probable scientifiquement, c'est l'augmentation des dividendes versés aux 0,1% les plus riches. Pour les 99,99% du dessous, c'est encore trop tôt pour dire « ruisseler, ça prend du temps ». Le souci, c'est que plus le temps passe, moins c'est évaluable, juge un économiste qui pratique ses études empiriques, car, dit-il, des facteurs autres que la réforme étudiée interviennent alors. L'an prochain, il y a des chances qu'on ne soit pas tellement plus éclairé sur ce débat, et s'il y a lieu, il y a des chances aussi qu'on en reste aux arguments déroulés par le président pendant le grand débat.
Il ne faut pas raconter des cracks, hein. C'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a 1 an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe.
Entre la pipe et le raisonnement économique qui n'a jamais été prouvé chez nos voisins, n'est pas évaluable à court terme ni à long terme et le sera encore moins avec la crise du Covid, y a-t-il une si grande différence ? À sa création, en 1982, l'impôt sur la fortune se voulait un pont entre les riches et les pauvres. Un symbole, donc, plus qu'une décision fondée sur des études économiques. C'est sans doute ce qui a péché. Peut-être est-ce à ce symbole que la France doit son chômage et sa désindustrialisation plus élevée qu'ailleurs. Peut-être. À l'heure où la crise du Covid-19 fait exploser la pauvreté, comme le rapporte la Banque mondiale, et que les milliardaires sont plus riches encore, peut-être aussi qu'un geste symbolique envers les 99% serait le bienvenu.
La bulle économique signée, Marie Viennot. La météo pour cet après-midi, des ondées des Pays de la Loire à l'Alsace, également sur le Poitou, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées et le sud du Massif central. Ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures iront de 12 à 15 sur la moitié nord et de 12 à 21 sur la moitié sud.